RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ensemble nous recevons Pierre-Henri Dumont. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général adjoint des Républicains. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc après des négociations laborieuses, Michel Barnier, le Premier ministre, a donc formé son gouvernement. Il a pioché chez les macronistes au centre et chez vous les Républicains. Où est la rupture annoncée par Michel Barnier? On a l'impression qu'à chaque nouveau gouvernement, on parle de rupture depuis des décennies. C'est quoi cette rupture ?
La rupture, c'est déjà avec les 7 ans des quinquennats Emmanuel Macron qui sont passés. Ça a été dit lors du discours de la passation de pouvoir entre Michel Barnier et Gabriel Attal. C'est faire en sorte d'avoir plus de sécurité pour les Français, de réduire l'immigration dans notre pays. Probablement également, on verra lors du discours de politique générale le 1er octobre, la faire évoluer, passer d'une immigration familiale sous-qualifiée, subie, à une immigration de travail surqualifiée et choisie. Faire en sorte de pouvoir remettre du service public de proximité, en particulier en ruralité, faire en sorte surtout que ceux qui travaillent puissent enfin gagner dignement leur vie, vivre du fruit de leur labeur, faire en sorte de pouvoir grandir dans la société.
Mais par exemple, l'immigration choisie, on a entendu ça sous Nicolas Sarkozy, donc ce n'est pas nouveau.
Peut-être, mais il y a, vous a pas échappé que quand Nicolas Sarkozy a quitté le pouvoir en 2012, il y avait environ 150 000 titres de séjour qui étaient délivrés par an. On est au double aujourd'hui. On a une voie d'accès qui est la voie d'accès de la demande d'asile qui est dévoyée, qui est utilisée, qui est détournée, qui fait qu'on n'arrive plus malheureusement à accompagner les vrais demandeurs d'asile de ceux qui l'utilisent comme une porte d'entrée, sachant qu'ils ne pourront pas être renvoyés dans leur pays si leur demande d'asile est déboutée. Donc c'est tout cela qu'il faudra mettre à plat. Et quand on a entendu les différents discours de passation de pouvoir, en particulier au ministère de l'Intérieur, on s'aperçoit que oui, il s'agit bien là d'une rupture avec ce qui était le cas précédemment ces 7 dernières années et ces 12 dernières années, puisque j'ai plutôt tendance à penser que les quinquennats d'Emmanuel Macron n'étaient qu'une continuité de celui de M. Hollande.
Pour rester un instant sur ce nouveau gouvernement, il y a 39 ministres avec certains postes surprenants, comme par exemple un ministère de la coordination gouvernementale. C'est assez inédit. Mais au fond, est-ce que ce gouvernement est autre chose qu'une construction uniquement destinée à répondre à des équilibres politiques ?
Tout gouvernement est destiné à répondre à des équilibres politiques.
Non, imaginer qu'un gouvernement, c'est d'abord un projet, conduite, et qu'ensuite on s'accompagne des meilleurs pour essayer de la conduire.
Nous sommes ici sur une chaîne de télévision et sur une radio qui est internationale. Dans tous les pays d'Europe, il y a des coalitions qui sont formées avec des personnes qui représentent des poids politiques au sein des différentes assemblées. C'est quelque chose, je vous l'accorde, de nouveau en France, d'avoir des coalitions qui sont des coalitions de projets, pour commencer. Le projet a été présenté par Michel Barnier dans les grandes lignes lors de son discours de passation de pouvoir avec l'ancien Premier ministre Gabriel Attal et sera détaillé de façon plus profonde lors de son discours de politique générale le 1er octobre. Donc il n'y a pas de honte à dire que ça représente évidemment les équilibres politiques qui sont les équilibres politiques de ceux de l'Assemblée nationale et du Sénat, que donc à ce titre les Républicains ont toute leur part à y jouer.
Avant d'entrer dans ce studio, vous parliez de Michel Barnier en disant c'est un négociateur, c'est sa qualité. Et aujourd'hui, il reçoit les partenaires sociaux et on sait qu'il va falloir s'attaquer au budget, donc aux dépenses de l'État et trouver des recettes. Donc est-ce qu'il est en train de la discuter, notamment de l'augmentation des impôts? Est-ce qu'il va falloir augmenter les impôts, sachant que la droite est quand même assez allergique à ce sujet?
Écoutez, Michel Barnier a été très clair. Le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale a été très clair aussi dans le pacte législatif qu'ils ont présenté à l'issue des élections législatives de juillet dernier, qui est pas d'augmentation sur les classes moyennes, sur la grande majorité des Français, sur ceux qui bossent dur, qui se lèvent tôt le matin et qui se couchent tard. Ça, c'est la ligne qui est la ligne clairement définie par le groupe LR et par le gouvernement. Michel Barnier,
la classe moyenne, c'est une notion un peu vague.
Non, c'est pas une notion vague, mais quand on appelle à plus de justice sociale, plus de justice fiscale, ça veut dire que probablement une certaine fiscalité sur des grandes entreprises, sur des grands groupes, certaines niches fiscales qui sont accordées à certains grands groupes industriels peuvent être revues. Cela veut dire que on peut imaginer une taxation qui est aujourd'hui une taxation du patrimoine sur les très hautes transmissions. qui pourrait être imaginé d'être réduit, d'être augmenté, pardon, cette taxation des très hauts patrimoines. C'est plein de solutions qui sont sur la table, mais pardon, avant d'arriver sur des questions d'augmentation d'impôts pour quelques personnes qui, si on regarde comparativement, payent beaucoup moins d'impôts que ceux qui travaillent. Aujourd'hui, je le rappelle, la taxation sur le travail est la taxation la plus importante quand on compare à toutes les autres taxations sur la rente, sur le patrimoine, sur la transmission via l'héritage, sur la consommation. Avant de faire des augmentations d'impôts, même si elles sont ciblées, il faut d'abord commencer par réduire les dépenses et faire en sorte de dépenser moins, mais beaucoup mieux sur des politiques publiques qui souffrent aujourd'hui, sur la santé, sur l'éducation, sur la sécurité, sur la justice.
Mais est-ce que augmenter les impôts, pour certains tout de même, ça ne serait pas finalement la solution de facilité dans la mesure où ce gouvernement serait trop fragile pour envisager de conduire de véritables réformes?
Mais c'est pas la solution de facilité, c'est une des possibilités qui est donnée à un gouvernement pour équilibrer un budget ou du moins limiter les déficits.
Mais ce gouvernement peut pouvoir réformer.
Moi, je pense qu'il y a des espaces. C'est d'ailleurs pour ça que Michel Barnier, vous l'avez dit, rencontre en ce moment les partenaires sociaux pour voir quels sont les espaces de discussion. Vous savez, on a environ entre 20 et 25 milliards d'euros, d'ailleurs plus proche de 25 que de 20 milliards, à trouver pour faire ne serait-ce que rentrer dans les clous de ce qui est tolérable, acceptable en termes de déficit. Les augmentations d'impôts ciblées telles qu'elles ont été évoquées, ça peut faire quoi ? 5 milliards d'euros au maximum. Donc on voit bien que la priorité des priorités, ce n'est pas d'augmenter les impôts, c'est d'abord de diminuer les dépenses, parce que c'est là où on pourra faire le maximum d'économies, là où on pourra rentrer dans les clous de ce qui reste soutenable pour notre pays et pour l'équilibre des grands comptes de notre pays.
Alors ce gouvernement est jugé le plus à droite depuis le gouvernement Fillon. Lui, justement, François Fillon, rappelez-vous, pendant la primaire de droite, avait proposé de supprimer des fonctionnaires. À l'époque, il disait 500 000, ce qui était énorme. Est-ce que c'est une piste, là aussi, de supprimer des postes dans la fonction publique?
Attendons le discours de politique générale du Premier ministre. C'est mardi prochain, donc on sera assez...
Oui, non, mais vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des idées. Non
moi, je pense... Ouais, mais pardon, mais c'est quand même le Premier ministre qui définit la ligne du gouvernement.
Un parti peut amener aussi ses idées.
Nous on a toujours estimé qu'il y avait des dépenses qui étaient des dépenses incompressibles dans les grands comptes de l'État et que, évidemment, le premier poste de dépense de l'État, ce sont les fonctionnaires et que donc, s'il y a des économies à faire, sur certains postes, pas sur ceux qui souffrent déjà. On ne va pas commencer par supprimer des postes de fonctionnaires, par exemple dans la santé, quand on voit l'état de l'hôpital aujourd'hui, mais dans d'autres endroits, on peut imaginer. Vous savez, moi, dans la collectivité où je suis élu, la collectivité locale, la mairie où je suis élu, où j'étais maire, on a supprimé des postes de fonctionnaires pour créer du service public. Et que si on veut créer du service public nouveau, comme moi j'ai pu créer un service de police municipale, mettre en place de la vidéoprotection, doubler le nombre de places de crèches pour répondre aux demandes de la petite enfance, créer des colonies de vacances, et ça se fait en faisant des économies. Les économies, quand on parle d'argent public, ça se fait principalement sur la plus grosse dépense. La plus grosse dépense reste les fonctionnaires.
Le gouvernement de Michel Barnier existe depuis quelques jours seulement et déjà on voit apparaître les premiers tiraillements entre le ministre de la Justice, Didier Migaud, qui est issu de la gauche, et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui vient de la droite, c'était le président du groupe LR au Sénat. Est-ce que ce tandem justice-police a la moindre chance de fonctionner ?
Déjà, ce n'est pas une nouveauté qu'il y a parfois des différences d'interprétation entre le locataire de la place Beauvau, le ministre de l'Intérieur, et le garde des Sceaux, qui est place Vendôme. Même dans un gouvernement où il y a des majorités absolues pour les appuyer à l'Assemblée nationale. Là, aujourd'hui, on a quoi ? On a un ministre de l'Intérieur qui a dit ce qu'avait dit le Premier ministre lors de la passation de pouvoir. Il faut remettre de la sécurité, remettre de l'autorité. Son fameux triptyque qu'il a annoncé lors de la passation de pouvoir avec son prédécesseur Gérald Darmanin. Qu'il fallait maîtriser l'immigration dans notre pays. Et donc, en cela, c'est la ligne qui a été définie par le Premier ministre Michel Barnier. Ensuite, Didier Migaud rappelle des faits que tout le monde accepte et qui sont normaux dans une démocratie qui est la nôtre, une démocratie libérale, à savoir que la justice est indépendante, que les juges sont en capacité de définir ce qu'elle doit être la peine prononcée à l'encontre d'une personne si elle est reconnue coupable après une enquête menée de façon indépendante. La réalité, pardon de le dire, c'est qu'il faut surtout, je le pense, avoir une certitude de la peine, si ce n'est pas une peine prononcée par un juge, ça peut être une peine administrative. On prend l'exemple qui est celui, malheureusement, qui a défrayé la chronique et l'actualité ces dernières semaines, qui est celui des refus d'obtempérer. Peut-être pouvons-nous imaginer un système où toute personne qui serait reconnue coupable de refus d'obtempérer serait automatiquement interdite de passer le permis de conduire pendant 10 ans, ce qui permettrait de voir, en complément d'une peine prononcée par un juge après une enquête et en entendant des versions contradictoires des uns et des autres, d'avoir en même temps la certitude d'une sanction à l'encontre de la personne qui a mis en danger non seulement sa vie, mais la vie d'autres personnes, que ce soit des passants, des jeunes enfants ou des fonctionnaires de police ou de gendarmerie.
Alors quand Bruno Retailleau, lors de la passation de pouvoir avec Gérald Darmanin, dit « je veux rétablir l'ordre, je veux rétablir l'ordre », il le dit trois fois, est-ce une, dans le fond une accusation de laxisme vis-à-vis de Gérald Darmanin? Et deux, est-ce que la nomination de Bruno Retailleau est un clin d'œil, bien évidemment, au Rassemblement national? Il le dit lui-même, d'ailleurs. Il dit « il faut qu'on regarde du côté du premier tour des législatives ». Donc c'était clairement le Rassemblement national.
Alors, ce qui est absolument certain, c'est que la ligne de Bruno Retailleau est différente de celle de Gérald Darmanin et de ses prédécesseurs sous Emmanuel Macron et sous François Hollande au ministère de l'Intérieur.
En quoi elle est différente ?
Parce qu'il est très clair, il a des convictions qu'il a longuement exprimées, que ce soit lorsqu'il était président du groupe au Sénat, du groupe LR au Sénat, ou lorsqu'il était candidat à la présidence des Républicains. C'est une ligne beaucoup plus ferme, beaucoup plus assumée sur restauration de l'autorité, sur diminution de l'immigration. Tout ça, on sait, on le connaît, et c'est d'ailleurs ce qu'il a annoncé lors de sa passation de pouvoir. Et la logique voudra qu'il l'applique, et d'ailleurs, je le répète, mais c'est la ligne qui a été présentée par Michel Barnier également lors de sa passation de pouvoir et lors de ses différentes prises de parole à l'issue. Donc Bruno Retailleau, aujourd'hui, n'est pas quelqu'un, et je pense que vous le savez, qui change d'avis. S'il est là, c'est parce qu'il veut appliquer la politique qu'il a toujours prônée. Et en cela, elle est aussi dans la ligne de celle de Michel Barnier.
Ouais. Alors vous avez dit que ce n'est pas la première fois qu'il y a des différends ou des différences entre le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur. Là, en l'occurrence, Didier Migaud a dit, depuis deux jours, il le répète, que le laxisme de la justice n'existe pas, que c'est un fantasme. Et il a dit en début d'après-midi, il faudra que je puisse contribuer à l'information de mon collègue, donc le ministre de l'Intérieur, et qu'on puisse avoir des échanges à ce sujet. Est-ce que c'est quand même pas un peu une façon de dire, monsieur Retailleau, vous ne savez pas de quoi vous parlez ?
Écoutez, laissons-les avoir...
Il faudra que je contribue, que je puisse contribuer à l'information de mon collègue.
Laissons-les avoir cette discussion.
Oui.
Nous verrons ce qui va en ressortir. Et je vous le dis, ce n'est pas les ministres qui appliqueront seuls la ligne qu'ils ont envie d'appliquer. C'est d'abord le Premier ministre Michel Barnier qui présentera sa feuille de route le 1er octobre devant les députés et devant les sénateurs. C'est à partir de cette déclaration de politique générale que les ministres devront mettre en musique non pas leurs propres opinions, mais la ligne définie par Michel Barnier. Attendons le 1er octobre et vous verrez que Bruno Retailleau sera probablement pas très, très éloigné.
Alors justement, le nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, a fait une boulette ce matin. Il a expliqué qu'il ne parlerait pas avec les élus du Rassemblement national parce qu'ils n'appartiennent pas à l'arc républicain. Il s'est fait aussitôt rappeler à l'ordre par Michel Barnier. Michel Barnier qui a dû appeler cet après-midi Marine Le Pen. Alors, un, votre réaction. Et deux, dans le fond, ça veut dire quoi cette expression d'arc républicain ?
Alors, cette expression d'arc républicain, moi, je ne sais pas qui on met dedans. C'est chacun, voilà. En fait, c'est McDonald's. Hein, chacun met ce qu'il a envie de mettre à l'intérieur. C'est venez comme vous êtes, on met qui on veut à l'intérieur. Bon, non, la réalité, c'est que l'arc républicain, ça n'existe pas. À partir du moment où un parti politique a l'autorisation de se présenter à une élection, on doit considérer qu'il n'y a pas d'anathème à lancer. Ça fait 40 ans qu'on lance des anathèmes contre le Rassemblement national et ça fait 40 ans que le Rassemblement national augmente ses scores année après année. Le seul moment où le Rassemblement national, le Front national à l'époque, a baissé au niveau des élections, c'est quand Nicolas Sarkozy a assumé une politique ferme en matière d'autorité et faisant en sorte de donner plus de pouvoir d'achat à ceux qui travaillaient dur. C'est la ligne qui est aujourd'hui la ligne qui est présentée par Michel Barnier lors de ses premières interventions.
Donc vous êtes en train de dire, dans le fond, qu'entre Michel Barnier et le Rassemblement national ou LR, l'épaisseur d'une feuille
je vous dis qu'il
à cigarette.
Répondre. Je vous dis que quand 11 millions de personnes votent pour un parti politique, on ne peut pas les mépriser, les mettre sur le côté en disant « vous n'existez pas, vous ne faites pas partie
d'un arc républicain ». Donc c'était une
boulette. Et c'est évidemment une boulette parce que Michel Barnier a dit qu'il faut respecter les uns et les autres. Ça ne veut pas dire qu'on adhère à leurs idées. Ça veut juste dire que s'il y a 11 millions de personnes qui votent pour un parti ou 5 ou 6 millions qui votent pour la France insoumise de l'autre côté, que ce ne sont pas des sous-citoyens, qu'il faut les considérer, les écouter. Ça ne veut pas dire qu'on va appliquer la politique prônée soit par la France insoumise soit par le Rassemblement national, mais qu'ils ont chacun de leurs députés, d'un côté ou de l'autre de l'hémicycle, le droit de pouvoir s'exprimer, le droit de pouvoir représenter les citoyens, le droit de pouvoir défendre leurs convictions. Après, ce sera à eux de voter en faveur de ce qui est présenté par le gouvernement ou pas. Je vous dis simplement que quand, en particulier, parce qu'on évoquait le Rassemblement national, quand 11 millions d'électeurs se tournent vers un parti qui est un parti avec ce passé, avec ce passif, c'est qu'il y a une vraie angoisse à laquelle les politiques n'ont pas su répondre, principalement en termes, je le répète, de pouvoir d'achat, de disparition du service public de proximité et de sécurité.
Et pourquoi croyez-vous que le nouveau ministre de l'économie, donc Antoine Armand, ait pu penser qu'il soit pertinent de dire ce qu'il a dit ce matin. C'est-à-dire, moi, je ne discute pas avec le RN.
Parce que probablement qu'il n'a pas encore eu le temps de changer de costume, passer du costume de candidat qui a pu bénéficier de retrait lors du Front républicain, qui ensuite était le costume de député du groupe de Gabriel Attal qui avait pris des positions très fermes sur ce sujet, à maintenant ministre, non pas d'un gouvernement qui est le gouvernement de Gabriel Attal, mais ministre de la République pour parler à l'ensemble des Françaises et des Français. Antoine Armand n'est pas ministre de l'économie des électeurs de Emmanuel Macron ou de La République En Marche ou de Renaissance. Il est ministre de l'économie de l'ensemble des Français. Et à ce titre, il doit évidemment retrouver, il doit évidemment rencontrer l'ensemble
c'est ce qu'on
des députés.
Ou c'était quel gouvernement quand on parlait de temps
de gouvernements.
Enfin, il y a eu un gouvernement particulier où l'expression revenait beaucoup.
On va.
C'est le premier.
C'est sous Hollande.
Ça l'affiche mal, pour dire les choses.
C'est le temps d'adaptation. Un nouveau gouvernement vient d'être nommé. Et vous voyez, vous évoquiez tout à l'heure la pertinence d'avoir un secrétaire d'État, ministre délégué en charge de la coordination gouvernementale. Vous avez aujourd'hui un exemple très concret sur l'intérêt d'avoir une personne capable de pouvoir aligner des positions, qui sont des positions qui parfois sont différentes. C'est le cas entre Didier Migaud et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. C'est ce que vient de dire Antoine Armand. Tout cela nécessite de mettre un peu d'huile dans les rouages. Ce sera le but de ce gouvernement en suivant, je vous le dis, je vous le répète, la ligne de conduite définie par Michel Barnier lors de son discours de politique générale. Les ministres du gouvernement aujourd'hui ne sont pas ministres d'Emmanuel Macron, ils sont ministres de Michel Barnier pour appliquer la politique décidée par Michel Barnier et qui sera discutée lors d'un séminaire gouvernemental dans quelques jours.
Un petit mot de politique internationale, puisqu'on voit que le Proche-Orient s'embrase, que la guerre en Ukraine continue. Est-ce que l'instabilité politique dans laquelle se trouve la France ne nuit pas à son rayonnement, à sa voix dans le monde sur la scène internationale ?
Probablement. L'exemple le plus concret est ce qui vient de se passer à la Commission européenne avec la démission de
Thierry Breton,
la présidente de la Commission. Nous, les Républicains, on est très à l'aise. On avait voté contre sa reconduction à Ursula von der Leyen. On était les seuls. Elle a été poussée par le président de la République qui, finalement, dès qu'il a été affaibli d'un point de vue national, en a tiré les conséquences pour évacuer un opposant interne dans sa Commission, Thierry Breton. Donc, évidemment, que la position issue de la dissolution, qui est une position de faiblesse de la France, des institutions françaises, impacte au niveau international. Sur le Moyen-Orient, je ne suis pas certain que ça a un quelconque lien, même si la France entretient des liens extrêmement étroits avec le Liban, de par son histoire, de par son passé, de par l'ensemble des aspects religieux et philosophiques que nous avons avec ce pays ami. Mais il ne faut pas y voir trop de conséquences.
Merci, c'est terminé.
Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de France 24. Et RFI, merci à Flore Simon et à Camille Néran pour avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. À très vite.